Voilà, si vous voulez bien pardonner, c'est une manœuvre maladroite de quelqu'un de notre famille qui a coupé la Wi-Fi. Voilà. Dieu soit loué, c'est rétabli. Ne vous découragez pas. Je traiterai sans doute la semaine prochaine de ce que c'est que la loi de Dieu et qu'est-ce que c'est que la grâce. Parce que je me rends compte que c'est des sujets de base que peu comprennent bien. Et aujourd'hui, je me réfère à une question d'un monsieur qui m'a parlé dans la forêt en me parlant d'Ézéchiel 38 et 39. Donc je me suis dit, bon, ça vaut la peine de se pencher sur la question, puisque j'ai répondu un peu vite dans la forêt. Et je ne dis pas que j'ai toutes les interprétations les meilleures, simplement je vais essayer d'en donner une. Bon, Ézéchiel 38 et 39 sont préparés par des chapitres dans Ézéchiel, les chapitres 25 à 32. Alors, qui est monsieur Ézéchiel? Ézéchiel est un prophète, un homme de Dieu, qui a risqué sa vie pour le Seigneur, pour Dieu, pour parler au nom de Dieu à un peuple rebelle. De 615, 620 avant Jésus, à 580 avant Jésus. Voilà. Donc il a connu l'exil à Babylone. Il a connu beaucoup de choses. Il a des très grandes expériences de Dieu. Vous pouvez regarder dans Ézéchiel le chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10. Vous verrez que ce n'est pas une chose superficielle qui est arrivée à cet homme. C'est vraiment une grande grâce. Il a eu de grandes théophanies, c'est-à-dire des grandes manifestations de Dieu. Alors, dans Ézéchiel 25 à 32, il y a quelqu'un qui m'appelle toujours au moment où je dois faire un message, je ne peux pas. Dans Ézéchiel 25 à 32, vous avez des prophéties contre les peuples environnants, contre ces hommes et ces femmes qui s'en prennent toujours à Israël. Ça va? Je vous donne un exemple au chapitre 25, verset 3. Tu diras aux enfants d'Ammon, Ammon c'est une partie de la Jordanie, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu dis, ha, 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 sur mon sanctuaire qui était profané, que tu dis sur la terre d'Israël qui était dévastée, ha, 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 et sur la maison de Juda qui allait en captivité, je te donne en possession aux fils de l'Orient, ils établiront au milieu de toi leurs enclos, ils y placeront leurs demeures, etc. D'autres passages dans la Bible ont confirmé cela. Qui plus est, les vestiges de la ville de Petra, en Jordanie, sont les vestiges de la capitale de ces personnes. Alors, nous allons continuer un petit peu dans les chapitres pour vous montrer à quel point il y a des gens qui ont toujours entouré Israël. Au chapitre 30, 25, verset 15, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine persistante, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main sur les Philistins. Les Philistins, c'est la région qui se trouve à l'ouest de Jérusalem, c'est la bande de Gaza, c'est une zone assez grande, que quand Titus a rasé Jérusalem, a détruit Israël, il a voulu qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Alors il appelait cette terre de la terre des Philistins, il l'a appelée la terre des Philistins, mais en latin c'est Palestina, Palestina, Palestinien. Donc, vers les années 70, il était interdit de prononcer le nom d'Israël. Interdit dans l'Empire romain. Bon, maintenant, il y a d'autres prophéties au chapitre 26. C'est contre Tyr. Tyr, qu'est-ce que c'est? C'est une ville, avec Sidon, deux villes maritimes au bord du Liban, qui sont maintenant sous eau, sous 30 mètres d'eau, dont l'UNESCO essaye de remonter les pierres, etc., de faire vivre le patrimoine de l'UNESCO, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a, Tyr et Sidon étaient les capitales d'un grand empire phénicien qui avait des forteresses disséminées tout le long de la Méditerranée avec des comptoirs maritimes et qui achetaient au plus bas prix et vendaient au plus haut prix. Et qui achetaient des esclaves aussi, y compris des enfants. Devinez pourquoi. Et qui en vendaient? Alors, ils vendaient des enfants d'Israël d'ailleurs, surtout pour la Grèce, Javan. Alors, la Phénicie avait des comptoirs, on appelle ça, même à Marseille, tout près de Toulon, etc., au bord de la mer, et dans beaucoup d'autres régions, jusque sur le bord de l'Atlantique, en Afrique, et de l'autre côté, sur l'Espagne, sur la côte atlantique. Alors, s'il vous plaît, ces gens, qui étaient d'une extrême puissance, sont dénoncés au chapitre 28. Ils sont possédés par Satan, ils sont habités d'un immense orgueil, et au chapitre 28, Ézéchiel doit aller parler à Ecbal II, le roi de Tyr et Sidon, pour lui dire, tu es un homme, tu n'es pas Dieu, et ta cité sera engloutie. Effectivement, elle est engloutie. La deuxième chose, une deuxième prophétie, il parle à l'archange qui était dans le ciel, le chérubin qui devait garder la montagne de l'Assemblée, donc de Jérusalem, de Sion, pour la venue de Christ, pour la gloire de Dieu. Cet archange qui est plein d'orgueil et qui a entraîné énormément d'hommes et d'anges à sa suite, cet Satan était jeté par terre, d'où l'image qu'il se traîne par terre, donc l'image du serpent dans la poussière. C'est Ézéchiel 28. Bon, donc Tyr va être détruit. Je lis 26, verset 2. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ha ha ha, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est maintenant donc déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tyr, je ferai monter contre toi des nations nombreuses comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. C'est une prophétie, c'est réalisé. Imaginez quand Origène, à la fin du deuxième siècle, ose dire que les prophéties sont des allégories, des images, ce n'est pas de contenu historique. Imaginez que dans la doctrine fondamentale, biblique, enfin apparemment biblique, de l'Église catholique, les prophéties sont allégoriques, n'ont pas de contenu historique réel. Eh bien, même maintenant, il y a des évangéliques qui tombent dans ce panneau-là, et les protestants, ils sont déjà tombés avec les théologiens libéraux. Attention à nous, les amis, Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties, n'attristez pas le Saint-Esprit. Puisque les prophéties et le Saint-Esprit sont unis. Les prophéties sont l'œuvre du Saint-Esprit. Les prophéties ne sont pas l'œuvre des prophètes. C'est une parole de Dieu, la prophétie. Et quand on commence à jeter les prophéties à la porte de la Bible, eh bien, il ne reste plus que la moitié ou le tiers de la Bible. C'est beau, n'est-ce pas? Satan, il se frotte les mains quand on croit de telles choses. Donc, Tyr et Sidon sont tombés. Donc, quand Ecbal II a été visité par Ézéchiel, c'était en 615. En 613, Tyr et Sidon sont détruits, dévastés. Ensuite, Nebuchadnezzar s'en prend à toutes sortes de pays alentour. Et il arrive aussi à Jérusalem en 605, puis ensuite en 603, puis ensuite en 598. Trois fois. La troisième fois, c'est la razzia totale. Alors, il faut bien se dire ceci. Dieu a permis que Tyr et Sidon soient détruits. Quand je vous parlerai tout à l'heure de Ézéchiel 38 et 39, sachez bien que tous les pays qui sont cités faisaient un énorme commerce et avaient des actions militaires avec Tyr et Sidon. Ils étaient unis dans le même trafic stratégique, militaire, commerciale. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il y a encore des trafics comme ça sur la Terre un peu partout. Bon. Il y a deux pôles sur le monde, Shanghai et New York, avec les deux fonds monétaires internationaux, c'est Kif-Kif que Tyrécidon, et toute cette alliance des pays qui étaient alentour de Tyrécidon. Des alliances humaines pour la puissance, pour l'argent, pour la volupté, pour la consommation et pour l'asservissement des hommes et pour la négation de Dieu. Les Tyrécidons sont promis à la ruine totale. Ensuite, de 26 à 28, on ne peut rien dire, c'est toutes des prophéties sur Tyrécidon, donc c'est majeur. Tyrécidon a un rôle majeur dans l'histoire de toutes ces régions. Ensuite, au chapitre 29, il s'agit de Pharaon, la Grande Égypte. La Grande Égypte comptait le Soudan, n'est-ce pas, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, et une partie de la Libye. Ce n'était pas un petit morceau de gâteau, c'était un grand empire. Voici, Ézéchiel 29, verset 2, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, tu prophétises contre lui, contre toute l'Égypte. Parle, tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. » Et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons des fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Et si vous continuez à lire, vous verrez assèchement du Nil. Assèchement total. Or, le Nil est un fleuve puissant, qui a cinq sources différentes, depuis des millénaires. Eh bien, pour Dieu, tout est possible quand il se met en colère contre un peuple rempli d'iniquité. Alors, au chapitre 30, verset 4, l'épée fondra sur l'Égypte, l'épouvante sera dans l'Éthiopie quand les morts tomberont en Égypte. Quand on enlèvera ses richesses, que ses fondements seront renversés. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, quand Nebuchadnezzar est arrivé, en 606, à la porte dans le désert du Negev, à la limite de l'Égypte, il y avait des murailles avec des forteresses, d'énormes murailles avec des forteresses et des portes. C'était imprenable. Eh bien, M. Nebuchadnezzar a eu une idée de génie. Il a mis 2 000 à 3 000 hommes devant ses troupes avec un chat. Et les hommes tenaient, non pas une lance et une épée, ils tenaient les chats par les pattes. Ils ont avancé vers les portes. Or, comme en Égypte, les chats sont des dieux, eh bien, on n'a pas voulu tuer les dieux. On a ouvert les portes et l'Égypte était prise. Vous voyez comment une nation peut être ridicule? Je pense que ce sera ça comme ça pour nous, pour notre civilisation. On se croit trop malin. Ézéchiel 30, verset 5. L'Éthiopie, put, c'est la Libye, lutte, toute l'Arabie, coupe, c'est une partie de l'Égypte, et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. S'ils tombent par l'épée, s'ils sont punis, il y a pourtant une rédemption qui est promise. On en parlera tout à l'heure, si le temps nous le permet. Autrement, on en parlera vendredi. Une rédemption pour une minorité, évidemment, qui se repent. Alors, continuons dans cette énumération. Nous sommes... toujours dans chapitre 30 et 31, face à ce pharaon, à sa civilisation orgueilleuse, hein, il n'y a pas de problème, c'est tellement prospère et tellement riche, ils sont fous d'orgueil, d'arrogance. Alors, quand les hommes prennent Dieu pour le néant, ça devient grave. C'est eux qui le payent cher. Alors, nous allons aller plus loin. Nous allons aller plus loin. Dans le chapitre 33, Ézéchiel est une sentinelle pour son peuple. Il est un avertisseur, comme une sentinelle sur les murailles. Jour et nuit, il doit parler à son peuple. Jour et nuit, il doit enseigner la repentance, la conversion, le retour à l'alliance. Ça ne sera pas facile. Ézéchiel y laissera sa vie. Au chapitre 34, Ézéchiel dénonce les responsables religieux, les faux bergers, les mauvais bergers. Et il annonce le vrai berger. Au verset 11, Ézéchiel annonce le vrai berger. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, etc. Et vous pouvez voir que ça correspond à Jean chapitre 10, quand Jésus dit « Je suis le bon berger ». Alors, je vais un peu plus loin, verset 14, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous jugerai entre brebis, entre bélier et bouc. » Pensez à Matthieu chapitre 25, versets 35 à 55. Quand Jésus revient, il trie les brebis et les boucs. Alors, un peu plus loin dans ce chapitre 34, Ézéchiel, je fais tout cela pour que vous intéressiez vraiment à Ézéchiel. Vous ne soyez pas omnubilés sur le chapitre de fin des temps, 38 et 39. Je regrette, la parole de Dieu tout entière est intéressante. On ne peut pas prendre la Bible pour apaiser ses peurs et ses angoisses. On prend la Bible pour écouter Dieu. C'est pas centré sur nous, c'est centré sur Dieu. C'est pour ça que je le fais. Ézéchiel 34. 30, verset 30. « Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. » Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Donc là, nous avons un cap. Nous avons un axe. Et ça, cet axe-là, il faut le garder en lisant Ézéchiel 38 et 39. Sinon, on ne se rend pas compte de la place prépondérante, essentielle d'Israël, dans le plan du salut. Le chapitre 7 d'Apocalypse, où il y a les 144 000, puis ensuite tous les élus derrière, eux, il est très important de comprendre que ça se repose sur des prophéties. Israël a sa place essentielle dans l'instauration du royaume de Christ. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir une lecture charnelle de la Bible, parce que j'ai peur, j'ai besoin de savoir, etc. Il faut absolument se mettre à l'école de notre enseignant, le Seigneur Dieu, et lui dire: parle Seigneur, je suis ton serviteur, je t'écoute. S'il vous plaît, ne prenez pas la Bible pour autre chose, autrement vous vous tromperez toujours de route. Le diable s'occupera bien de vous, pour vous égarer. Chapitre 35. Prophétie contre Édom. Édom, les Édomites, c'est au sud de la mer Morte. C'est un petit peu à l'est, à l'ouest. C'est vraiment une région. Les Édomites, c'est les durs de durs, qui n'ont jamais supporté Israël. Je vais vous dire ceci, on a recueilli beaucoup de réfugiés ici, et des réfugiés érythréens, notamment. En Érythrée, une ancienne partie de l'Éthiopie, elle est sous obédience chinoise, marxiste-léniniste. Et ceux qui dirigent cela reçoivent des enseignants militaires de Chine, pour manipuler de manière féroce la population. Et tout quiconque, quelqu'un qui est orthodoxe, donc copte, ou quelqu'un qui est athée, ou qui est musulman, on ne le dérange pas. Mais quelqu'un qui se tourne vers l'évangile, est considéré comme un complice des USA, des États-Unis et de l'Europe. Et dès qu'il est converti, on le met dans des containers, on l'enferme, on le met sous le soleil à 45 degrés, soleil. Et s'il ne renonce pas à sa foi, il y meurt. Dans tous ceux que nous avons reçus ici, que nous avons écoutés, on a entendu beaucoup de choses de ce genre. Quand les personnes se convertissent, si elles ne sont pas attrapées tout de suite, parce que tôt ou tard, elles sont dénoncées par la famille, même par les Coptes qui se disent chrétiens, eh bien, soit ils se sauvent vers le Soudan et la Libye, et ensuite ils traversent la Méditerranée et souvent 3 sur 4, ils meurent, et puis ils passent en Italie et en Europe. Il y en a pas mal dans notre région ici de Virton et au Luxembourg. Nous avons déjà prêté notre salle ici de culte pour qu'ils fassent des cultes le dimanche après-midi. Ils étaient 25-30 ici. Alors, soit ils vont vers l'Occident, soit ils vont vers Israël. Quand ils vont vers Israël, ils doivent traverser le désert du Sinaï. Ils doivent traverser ce désert où est passé le peuple d'Israël pendant 42 ans. Et là, ils tombent sur des populations qui sont devenues musulmanes depuis, mais qui étaient aussi féroces avant d'être musulmanes. Et là, on attrape les femmes, on les vend comme esclaves sexuels à Daesh et à l'État islamique, à tous ces combattants. C'est horrible. J'ai des témoignages, j'ai reçu des témoignages ici. Nous, on s'en fout, on s'en moque. C'est des chrétiennes, pourtant. Les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre dans le sable, avec la tête qui dépasse du sable, on les laisse mourir là, au soleil. L'histoire de la foi chrétienne, de la persécution, est bien en route depuis longtemps. Et elle continue. Et les Moabites sont, les Édomites sont des champions de la persécution. Comme ils étaient hostiles à Israël, ils sont hostiles à la foi chrétienne. Et dans ces déserts-là, toutes ces tribus sont féroces. Il est très difficile d'y échapper. Si bien que les États-Unis, un jour, ont appareillé 50 Boeing 747, ils ont tiré tous les sièges et ils ont fait atterrir en Éthiopie. Non pas pour prendre des chrétiens, mais pour prendre des juifs noirs, qu'on appelle les Felacha. Ils en ont mis 500 dans chaque avion et la même nuit, ils sont tous partis. 25 000 sont arrivés en Israël la même nuit. Et j'ai eu la chance, en 2008, lors de la fête de Soukhot, d'habiter dans leur quartier et de voir, ils célébraient Soukhot, la fête juive, avec leurs costumes traditionnels d'Éthiopie, etc., des juifs. Et il y avait des juifs aussi venus d'Inde. Comme quoi Israël s'est répandu un peu partout, chers amis. Mais les Édomites ne font pas de cadeaux, encore aujourd'hui. Alors, tout ce que vous avez dans le chapitre 35 semble sévère et très dur. Mais mes amis, quand vous voyez, moi j'ai vu des photos de ce qui se passe depuis 10 ans dans ces déserts-là. Quand vous voyez ça, c'est pas étonnant que Dieu exprime sa colère ici. Chapitre 36, rétablissement d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Montagne d'Israël, ça veut dire les tribus d'Israël. C'est pour ça que dans le psaume 121, quand on dit, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les tribus d'Israël qui se réunissent pour le règne messianique. C'est ça que ça veut dire, ce psaume. Alors, c'est pas la question de regarder des cailloux, des montagnes comme les Alpes ou etc., les Pyrénées. C'est un grand symbole des tribus d'Israël, montagne d'Israël. D'ailleurs, le nom de Dieu El Shaddai, c'est le Dieu montagnard, le Dieu des montagnes. C'est le Dieu des tribus d'Israël. C'est le Dieu puissant. Fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah 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 ah, encore de nouveau la même chose, se moquer, mépriser. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs antiques sont devenues notre propriété. Donc, ces tribus d'Israël et leur territoire sont devenus nos propriétés. Imaginez. Prophétie, c'est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, et oui, hein, l'antisémitisme. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Ô montagne, ô colline, ô ruisseau et ô vallée, ô ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Chers amis, maintenant vous avez compris qu'on peut aller vers Ézéchiel 38, puisqu'il y a une guerre de butin qui est prévue. Pour bientôt. Quand vous voyez tout cela, vous vous rendez compte de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu dépasse l'histoire, dépasse l'usage de la télévision et d'Internet. Lisez la parole de Dieu, méditez-la. Demandez à des gens qui connaissent la Bible de vous l'expliquer. Achetez des livres sérieux, parce qu'il y en a des autres qui sont pas sérieux et qui le paraissent. Ensuite, si vous avez le temps, faites l'Institut biblique. Là, vous aurez le temps d'être conseillé. De 42 à 45 ans, j'ai baissé la tête. Alors que j'avais fait 7 ans de théologie et de philosophie, j'ai voulu recommencer à zéro mon école pendant 3 ans. Et toutes les questions que j'avais, je les ai posées et on m'a répondu. Et au bout de 2 ans, chers amis, quand je lisais la Bible pendant la nuit, parce que je devais travailler en rentrant, je lisais, je travaillais la nuit, un cadeau énorme, inestimable, 3e année pendant la nuit, c'est que tout me devenait limpide dans la parole de Dieu, limpide, comme de l'eau de roche. J'attendais cela depuis l'âge de 16 ans. Ainsi donc, si vous allez dans la parole de Dieu, persévérez et demandez à Dieu un jour d'ouvrir vos yeux, de faire tomber les écailles, les bouchons de vos oreilles, que le Saint-Esprit vous dirige quand vous lisez la Bible. Il n'y a pas d'autre esprit que le Saint-Esprit. Parce que dans ce monde, il y a d'autres esprits qui prétendent connaître la Bible. C'est l'Esprit de Christ, l'Esprit des apôtres, l'esprit d'amour de Christ. Alors, dans Ézéchiel 36, il y a forcément un grand cadeau pour ce peuple, ces montagnes, ces tribus, ces collines d'Israël, ces brebis éparses dont le vrai berger va revenir. Il y a un cadeau formidable. Ézéchiel 36. Je vous donne un message global pour pouvoir aller dans un message particulier après. Quand on regarde une scène de théâtre, il a fallu faire les décors, créer la scène. Quand les acteurs arrivent, il a fallu énormément de boulot avant. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire quand on lit la Bible. C'est voir le décor et voir tout ce qui est alentour. Il n'y a pas de texte à lire sans le contexte. Ézéchiel 36, verset 24. Je vais commencer un peu avant. 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Et vous me dire, les Juifs ont profané le nom de Dieu, pourtant ils ont des synagogues, etc. Et alors, Karl Marx, c'est pas un juif? N'a pas profané le nom de Dieu? Sigmund Freud. Et tant d'autres. Tant d'autres. Même des ministres en France sont juifs. Chers amis, le nom de Dieu est souvent profané. Quand le Bataclan a explosé, il était dans un quartier juif et la salle appartenait à des juifs. Et il laissait faire. C'est drôle quand même. Et c'était des groupes sataniques qui chantaient là ce jour-là. Alors les amis, le nom de Dieu était profané par son peuple, oui. Et pourtant Dieu est patient, il aime son peuple. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Trotsky, le boucher, du communisme. Avant Staline, il a fait plus de morts que Staline. Il a été ensuite assassiné par Staline, par ses hommes en Argentine. Trotsky, c'est un faux nom. C'est un juif. Il a provoqué des millions de morts. Hitler, c'est le fils d'un baron viennois juif. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. J'ajoute, il purifiera les dirigeants de Rockefeller, de Rothschild, de Goldman Sachs, de BlackRock, qui dirigent le monde maintenant, à leur perte. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit Saint en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Ben, il y en a. Et Dieu est capable, en une seconde, de balayer les souillures d'un peuple. Chers amis, ces textes sont puissants. Quand on connaît l'histoire de la juiverie mondiale, il y a des hommes très braves, il y a des hommes intègres qui ont transmis la Bible. Il y a de grands prophètes, il y a Jésus, mais alors les autres. Il y en a de toutes les sortes. Auriez-vous voulu Strauss-Kahn comme président de la France ? Avec sa conduite, par exemple, chers amis, Paul a dit que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Je crois à l'autorité divine de la grâce. Je crois à la rédemption par le sang de Jésus. Sinon, on est foutu, tout le monde, à commencer par les Juifs. S'il n'y a pas la grâce de Dieu pour délivrer ce monde, c'est pas la peine de se lever ou de se coucher. Donc, le livre d'Ézéchiel est essentiel. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce que Dieu dit par Ézéchiel, alors le chapitre 37, c'est le texte qui est relatif à la résurrection. Le retour à la terre, le retour à la vérité, à la droiture, à l'alliance d'Abraham et de Moïse, le retour au le don du Saint-Esprit, la nouvelle naissance au chapitre 36, ensuite la résurrection. Tout y est. Ça fait partie de l'évangile. 37. Je ne vais pas tout lire, c'est trop long, mais je vous le dis. Verset 9, « Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. » Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi de l'Éternel. Voilà. Nous avons toute la dogmatique de la grâce à travers les prophètes, le prophète Ézéchiel et bien d'autres autres prophètes. Comprenez bien que les livres apocryphes, à côté de ça, c'est rien du tout. C'est ça qu'à Muratori, à la fin du IIe siècle, au nord de l'Italie, dans un petit village, les responsables d'église ont défini le canon de la Bible, parce qu'il y avait plein d'autres livres. Mais ceci, ce n'est pas de la bagatelle, c'est la pensée de Dieu. Alors, chapitre 38, il faut bien y venir quand même, puisque dans la forêt, un brave chrétien m'a posé des questions sur ce chapitre. Ah, comme je vous ai dit, à partir du chapitre 25, nous sommes en préparation pour comprendre les chapitres 38 et 39, en préparation. On ne tire pas des textes hors du contexte. Donc, je vous invite à ne pas être des lecteurs superficiels, distraits et toujours trop pressés. La Bible, ça prend du temps, c'est un investissement, c'est une consécration. Et Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Si vous cherchez, il vous éclairera. Alors, nous allons lire chapitre 38. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, Méchec et Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog. » Bonjour les amis. Bonjour, sincèrement, de tout mon cœur. « J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et Tubal, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands boucliers, le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Torgama à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblée autour de toi, sois leur chef. » On lira le suite. Alors, Roche, d'abord, à l'exception des autres mots, Roche ne représente pas un pays. Roche, en hébreu, ça veut dire tête. C'est un mot qui représente prince. C'est une autorité, si vous voulez. C'est une tête, un prince. Les autres noms, oui, ils représentent des pays. Alors, ces pays, chose bizarre, si vous allez dans Genèse, vous vous rendez compte que Abraham voit arriver des rois qui envahissent toute la vallée du Jourdain et qui enlèvent Lot et toute sa famille. Le roi de Kedorlaomer et d'autres, ce sont toujours des chefs d'État comme ceux-là. Et ce qu'il y a, c'est inhérent à la région. C'est toujours les mêmes qui remettent la sauce, comme on dit. Et Abraham, avec 300 hommes, arrive à les briser en les attaquant la nuit. Et qu'est-ce qui vient bénir Abraham lorsqu'il a battu ses ennemis? Eh bien, c'est un Cananéen qui s'appelle Melchisédek. Il n'est même pas hébreu. Un habitant de Salem, futur Jérusalem, plus tard, mais c'était cananéen, c'est un cananéen. Et qu'est-ce que dit Hébreux chapitre 7? Qu'il est semblable à Christ, il est sans début ni fin, sans généalogie. Donc le Christ est apparu à Abraham pour le bénir dans sa victoire sur les ennemis venus du Nord et de l'Orient. Je vous mets l'eau à la bouche en disant cela, c'est ce qui arrivera encore. Mais alors, Christ, avec les mains trouées, les pieds troués, le flanc troué, et qui apparaîtra, et qui aura brisé les nations. Cette fois-ci, il n'apparaîtra plus sous l'apparence d'un Cananéen, roi de paix et de sainteté de Jérusalem. Donc, c'est une prophétie, une anticipation, un signe de Christ, un type de Christ. Alors, chers amis, voyons un petit peu quels sont ces peuples. Bon, je ne peux pas m'attarder sur tous les détails, c'est impossible. La Russie semble la plus concernée dans ce récit. Toutes les régions qui sont citées ici font partie de la Russie actuellement, même si le mot Russie n'existait pas. Alors, Meshek et Tubal, ce sont des régions de Turquie. Meshek et Tubal est répété deux fois, au verset 2, au verset 3. C'est donc ça a une importance très, très active. C'est un peuple très actif dans la querelle, dans la haine d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu va mettre un mort comme aux chevaux pour le diriger. Il va mettre aussi autre chose, une boucle à ses narines, comme on guide un taureau. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Donc, il va les conduire à se heurter à Israël, qui est sans défense. Et ils vont pourtant se heurter à Israël, parce que Israël est la propriété de Dieu. Israël fait partie des prophéties que nous venons de lire, survolées, hein, dans Ézéchiel. Donc, Israël, c'est la pupille de Dieu. Celui qui y touche, gare. C'est ce qui va arriver. Nous reparlerons des boucliers, petits boucliers, etc., chevaux après. Il semble que les armes, avec du mazout, de l'essence, du diesel, les avions de chasse, etc., semblent être disparus, et que ces peuples, dans leur acharnement, utilisent les vieux moyens guerriers de l'époque, des autres époques. Comme si il y a eu une crise du pétrole, une crise financière, et il n'y a plus moyen de faire fonctionner les engins modernes. Mais vous savez qu'il n'y a pas besoin d'engins modernes. Quand on est plein de haine, on prend n'importe quoi, comme Caïn pour tuer Abel. Alors, avec eux, ceux de Perse, donc Perse, la Perse c'est l'Iran, et à cette époque-là c'était l'Iran et l'Afghanistan, d'Éthiopie, ce qui est une partie même de la Libye et l'Érythrée et Somalie, c'est vaste, et de Put, l'autre partie qui concerne, qu'on appelle Libye. Tous portant bouclier, casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Torgama. Donc, ces régions-là, ce sont des régions du Caucase. Azerbaïdjan, etc., Géorgie et tout. Toutes ces régions-là du Caucase. Et, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Donc, M. Gok, si c'est la Russie, c'est un responsable russe ou turc, on en sait. C'est pas facile de le préciser. C'est plus probable que ce soit quelqu'un de Russie quand même. Après bien des jours, tu seras à leur tête, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est aujourd'hui qu'Israël a été recréé, en 1948, le 16 mai. À partir de 1890, avec Théodore Husserl et le sionisme, parce qu'il y avait tellement de persécutions en Russie et autre part, même en France, l'affaire Dreyfus, en Allemagne, il y avait une haine du juif en Allemagne, déjà à cette époque-là. Quand Nietzsche était petit, il avait la haine du juif avec sa sœur Elisabeth. Elisabeth a déménagé d'Allemagne, d'Autriche plutôt, puis d'Allemagne, avec son mari, a installé une communauté écologique en Argentine pour ne plus être en présence des juifs, uniquement par antisémitisme. Puis quand son mari est mort, elle est revenue en Autriche, en Allemagne, elle a commencé à corriger les écrits de Nietzsche pour y mettre encore plus de poison. Elisabeth et Nietzsche sont fils de pasteur. Eh oui. Comme le président de la Corée du Nord est petit-fils d'un pasteur. Baptiste. Alors, il n'est pas étonnant que tout est possible. Quand quelqu'un refuse la vérité, Satan s'en empare. Mais ce qu'il faut savoir d'après ce texte, c'est que Dieu met un mort, met une boucle, et ils n'iront pas là où ils pensent aller. Ils vont aller à leur ruine, à leur échec. Ils vont être sous la colère de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Verset 8. « Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, ce sera comme une nuée qui va couvrir le pays. » Donc, pensez bien, il y a des armées qui arrivent d'Iran, d'Afghanistan, il y a des armées qui viennent de Russie, des armées qui viennent du Caucase, et des armées qui viennent de Libye, et des armées qui viennent d'Égypte et d'Éthiopie. De quatre axes différents. C'est comme une nuée. Une tempête pour Israël. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, tu formeras de mauvais desseins. Et bien sûr, l'éradication du peuple d'Israël, que Hamas a déjà. Hamas, dans tous ses statuts, a ces convictions-là. Plus d'Israël sur la terre de Palestine. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, qui habitent tous dans des villes sans murailles, c'est le cas aujourd'hui, n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin, me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Ça m'a frappé lors de ma visite, occupant les lieux élevé du pays. En général, la reconstruction d'Israël s'est faite sur les collines. Alors qu'ici, chez nous, en France, en Belgique, souvent c'est dans les vallées. Ça, c'est assez étonnant. Et que ça se soit réalisé comme ça. Dieu avait déjà prédit et ça s'est réalisé. Alors, c'est une guerre de butin. Qu'est-ce que c'est que le butin ? En fait, depuis des millénaires, ou en tout cas des milliers, de quelques milliers d'années, les caravanes qui venaient d'Asie, qui venaient d'Europe, allaient vers Israël et passaient vers l'Arabie et passaient vers l'Afrique. Le butin, c'est l'Afrique, chers amis. Il n'y a pas aujourd'hui d'économie possible, stable et de prospérité possible pour la Chine et pour la Russie sans l'Afrique. Parce qu'ils sont en mauvais rapport avec l'Europe et les États-Unis. Et leur exportation diminue. L'hostilité de l'Europe et des États-Unis, du Canada et de l'Allemagne, etc., grandit. Et on coupe progressivement dans le marché du gaz, du pétrole et de tous les autres objets. Donc il faut une plus-value autre part. Et la plus-value, c'est l'Afrique. Et comme des faits, lors de mes voyages, j'ai vu que les Chinois avaient déjà fait beaucoup de routes, des routes sensationnelles, et des trains, des chemins de fer, et qu'il y a la même chose dans une revue Géo d'il y a 5 ans, à la fin du mois de mai, j'ai vu les photos de 5 autoroutes venant de Chine, à travers le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, dans tous ces pays qui sont cités, Turkmenistan, Meshek, etc., Tuval, et qui arrivent là. Il n'y a plus qu'à faire la jonction. Vous ne pouvez pas me dire que c'est du hasard. C'est prévu, c'est combiné, c'est voulu. Et le butin, c'est l'Afrique. Lors d'un film il y a 15 ans, Je voyais des intellectuels chinois qui osaient dire « Nous gouvernerons militairement l'Afrique ». J'ai dit « Ils y vont fort ». Mais non, pas du tout. Ils ont la mentalité pour et le diable avec. Alors, continuons. Verset 13. Séba et dedans, les marchands de Tarsis. Séba et dedans, c'est l'Arabie. Marchands de Tarsis, c'est la côte est de la... Non, c'est l'Espagne. C'est pas que la côte est de l'Espagne. Tarsis, Tarragone. Et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme? Et dis à Gog, donc c'est Dieu ici qui parle et qui dit à Ézéchiel de prendre la parole. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Il semblerait que les moyens techniques modernes aient disparu, qu'il y ait eu un grand problème économique. C'est possible, vous savez. C'est possible. Quand on parle avec des traders, des banquiers du Luxembourg, ici à côté, ils disent que la situation est très grave au niveau bancaire, qu'on peut avoir un clash boursier. Peu importe. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, c'est vrai qu'on voit l'inflation accélérer. Donc, l'économie est en danger. Mais, des chevaux, il y en a toujours eu. Et des hommes fous furieux, il y en a toujours eu, pour les monter. Une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Donc, Dieu les incite à attaquer Israël pour être brisé. Afin que les nations me connaissent et je serai sanctifié par toi sous les yeux au Gog. Alors, le pays en sécurité, au verset 14, je voudrais vous expliquer. Il y a deux alliances qui vont s'établir rapidement. Une alliance, c'est entre les Palestiniens, les Arabes musulmans, pas les Arabes chrétiens, mais les Palestiniens qui veulent un État avec une partie de Jérusalem-Est et les Juifs. 85 milliards des États-Unis sont promis pour cela et une partie de Jérusalem-Est. Et d'autre part, il faut mettre des soldats, des casques bleus. Donc, Luc 21, quand les armées des nations seront à Jérusalem, le temps de la fin sera arrivé. Donc, quand vous verrez les casques bleus à Jérusalem, pour garantir l'accord de paix entre Palestiniens et Israël, sachez bien que c'est un accord qui ne durera pas longtemps. Dans le Coran, sourate de la vache, verset 65, les juifs sont les fils de singes. Donc, signer avec un singe, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut faire, je ne pense pas que tout musulman ait un mépris aussi grand, mais en tout cas, c'est quand même malheureux que ça soit écrit dans ce texte. Alors, si tout le monde le lit, si tout le monde lisait le Coran et lisait ce verset, c'est bien horrible. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un accord de paix garanti par l'ONU, c'est un accord temporaire, et puis il y a un autre accord qui vient un peu après, peut-être un an, deux ans, trois ans après, c'est l'accord avec l'Antéchrist. C'est une alliance des juifs orthodoxes, pieux, qui veulent un temple et l'Antéchrist. Et ils vont avoir la promesse d'avoir un temple. Alors rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, 33 ans avant Jésus, un temple n'était pas entièrement détruit. Le temple, le second temple de Néhémie Esdras, était partiellement détruit, abîmé par Antiochus et Épiphane, et il a été amélioré, reconstruit, embelli par Hérode, un Iduméen, un Arabe, avec l'argent de l'Empire romain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas possible, dans un accord avec l'Antéchrist, que l'argent des païens, des ennemis de Christ et de l'ennemi d'Israël, l'argent sert à construire un temple pour séduire les juifs orthodoxes? puisqu'on les a bien séduits au temps de Jésus. Ils étaient tellement séduits qu'ils n'ont pas supporté la présence de Jésus. Je pense que si ça a marché au temps d'Hérode et de l'Empire romain, ça peut encore marcher aujourd'hui. Parce qu'un homme qui est attaché à un tas de pierres, à un temple, pour faire des sacrifices, comme à l'époque de Salomon, il est clair qu'il va tout signer avec l'Antéchrist. Et puis quand il va réaliser qu'il doit adorer l'Antéchrist sur l'autel, dans le temple, là, il va refuser. Et ils vont le payer de leur vie s'ils refusent, s'ils se convertissent à Christ. Chers amis, il y a deux alliances encore à faire. L'alliance entre les Palestiniens et Arabes, garantie par les casques bleus, Luc 21, les armées des nations, et une autre alliance avec l'Antéchrist, qui suivra un peu après, ça c'est clair. La grande illusion des Juifs religieux, comme à l'époque, avant Jésus, 33 ans avant. C'est la puissance de Satan qui fait cette séduction. Quand on n'a pas Christ, on est séduit par l'ennemi. Donc ici, continuons à lire. Verset 16, « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent. » Et oui, un signe irrémédiable, puissant, des chutes de grêlons de 27 à 33 kilos qui brisent toutes les armées envahisseurs. Un signe qui permet aux gens d'Israël, aux gens des nations de se dire « Le Dieu de la Bible est le vrai Dieu ». Et pour ceux qui ne veulent pas, ben, il reste avec l'Antéchrist. Mais c'est un signe préalable à l'enlèvement de l'Église, probablement. C'est presque conjoint. Il y en a qui vont se convertir rapidement là. Et pourquoi? Parce qu'en 2008, j'ai vu à cet endroit, un petit endroit que je ne vais pas citer pour qu'ils ne soient pas persécutés, 100 à 110 000 juifs vont chercher une Bible avec le Nouveau Testament. Depuis 2003-2002. Donc il y a énormément de foyers, de maisons en Israël qui ont la Bible avec le Nouveau Testament, l'Évangile. S'ils se donnent la peine d'aller cet endroit, qui est dans une colline, très abritée, très secrète, d'aller chercher une ou plusieurs Bibles, c'est que réellement le figuier est reverdi, comme Jésus l'a annoncé. S'il est reverdi, ce figuier va dire « Béni soit celui qui vient en nom de l'Éternel. » Jésus a donné 4 fois ce message dans Marc, Matthieu et Luc. Et c'est dans le psaume 118. Le jour que le Saint-Esprit pousse ces Juifs qui ont lu la Bible à invoquer le nom de Jésus sur Israël, alors là, c'est la victoire sur Satan. Et je pense que l'enlèvement de l'Église est conjoint à cet événement-là. Et ceux qui ont refusé, ils auront leur temps, ils auront leur alliance avec l'Antéchrist, et là, ils vont vraiment souffrir. Donc la période, la guerre qui est décrite dans 38, est certainement dans les 7 années de tribulation, au départ, en tout cas dans les débuts, et l'enlèvement de l'Église juste après. Et puis, il y a une autre guerre qui est décrite dans chapitre 39, et cette guerre où il tombe non seulement des grêlons, il tombe du feu, du soufre, on ne voit plus le soleil, on ne voit plus la lune pendant des mois. Et il y a des millions de gens qui meurent, qu'il faut enterrer dans la vallée des voyageurs. C'est sur l'Orient de la mer de Galilée. Dans les montagnes, là, il y a un chemin ancestral depuis des milliers d'années sur les monts de Jordanie. C'est là qu'ils seront enterrés par les Juifs. Alors, la grandeur de Dieu sera démontrée. Verset 23, pour aujourd'hui, je vais en terminer là. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et sauront que je suis l'Éternel. Non seulement les Juifs, mais les nations. Alors, quelles nations par exemple? Prenons le psaume. Nous devrons revenir à 39, mais pas aujourd'hui. Psaume 84. Si ma mémoire n'est pas trop abîmée par la chaleur du qu'il y a dehors. Non. 87. Psaume 87. C'est une prophétie. C'est 1000 ans avant Jésus. Des fils de Corée. Psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Donc, toutes les montagnes, c'est les tribus. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Donc, toutes les autres localités d'Israël. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Vous voyez que il faut ce signe très puissant où Gog et Magog et tous les autres sont brisés. Il y en a qui se tournent vers Dieu. Et on va voir deux autres textes, deux autres. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, ce qu'on appelle Palestine maintenant, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Il ne s'agit pas d'une naissance charnelle, il s'agit d'une naissance spirituelle. Ils sont intégrés dans une naissance spirituelle derrière les Juifs. Apocalypse, chapitre 7. C'est de Sion, il est dit, tous y sont nés, c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Je trouve qu'avec la parole de Dieu, nous avons un immense espoir que l'humanité ne finisse pas mal. Ésaïe, je pense, chapitre 18, nous allons voir. Ce signe de l'échec de Gog et Magog dans le nord d'Israël est déterminant avant l'enlèvement de l'Église. Il y a plein de personnes qui sont appelées dans le monde, mais il leur faut un signe qui démontre l'autorité du Dieu vivant. Nous sommes parfois si incrédules nous-mêmes. On veut bien être chrétien, mais avoir des signes de Dieu qui nous dérangent, ben il nous en faudra quand même. Voilà. Ésaïe chapitre 18. Vous pouvez lire tout le chapitre 18, évidemment. Ça fait référence à ce que je viens de dire. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves d'Éthiopie, etc. Bon, mais allons à l'essentiel. Verset 7. « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, dont le pays était coupé par des fleuves. » La Syrie, au niveau biblique, qui maintenant est divisé par les Anglais et les Français en Syrie et en Irak. Mais c'est vraiment la Syrie. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Ils vont venir adorer Dieu, l'Éternel de la Bible, de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce signe est très puissant de Ézéchiel 38. Bon, maintenant, allons à la fin du chapitre 19. Un peu plus compliqué à expliquer, mais prenez patience, vous prendrez un bic et un papier si vous voulez après pour réécouter le message. Verset 22. « Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. » Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira, ou il les frappe. Ézéchiel 38. Parce que le mot Égypte à cette époque-là, ça comprend l'Éthiopie. Alors, ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, et les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Il y a donc un rétablissement de relations entre tous ces peuples qui se mangent le nez pour le moment. Mais sous quelle égide? Dans quel esprit? Regardons. En ce même temps, ils serviront l'Éternel, à la fin du verset 23. Verset 24, en ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel désormais les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Pour en arriver là, il faut un sacré choc. Je pense que c'est Ézéchiel 38. Maintenant, y a-t-il un signe prophétique qui nous permet de croire à cette prophétie? Là, chers amis, je trouve que Dieu est très fin et très subtil. Et il veut nous instruire, toujours. Alors, on va commencer à lire au verset 18. Ésaïe 19, verset 18. Qui peut être plus intelligent que Dieu, hein, chers amis? Qui peut être plus fin que lui? Je trouve que Dieu est infini dans sa révélation, infini. C'est à nous de nous incliner pour la recevoir et de demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer. Ésaïe 19, verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Alors, j'explique. 605, 603, 598, fini. Israël est anéanti pour 75 ans. Toutes les tribus sont dispersées, les deux tribus du sud sont dispersées dans la Babylonie, qui est ensuite conquise en 535 par l'Iran, Cyrus, les Mèdes et les Perses. Donc l'Iran et l'Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe? Cyrus, selon les prophéties faites dans Ésaïe 35 et selon dans Jérémie, Cyrus donne un mandat à 43 000 personnes pour retourner et rebâtir Jérusalem, les murailles et le temple. Il aurait peut-être espéré qu'il y en ait 500 000, mais tous les Juifs n'ont pas voulu décoller de là. Vous voyez bien qu'il y a encore des Juifs en France un peu partout, alors que l'antisémitisme progresse. Ben oui, ils sont dans leurs affaires, dans leurs biens, etc., dans leurs pantoufles. Il faut les décoller de là. Bon, ça va pas être facile. Ça, c'est pour bientôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des Juifs qui ont fait partie des armées des empereurs Assuérus et Artaxerxès. Donc, au lieu de retourner vers les années 536 vers Israël, certains sont restés et se sont bien établis, sont intégrés aux cultures et à l'armée, au système judiciaire, financier et tout le reste des puissants de l'époque. Et il y a un problème en Égypte avec les Éthiopiens. Donc il faut mettre des garnisons sur le Nil, 5 garnisons. Il y a des îles, on met des garnisons. Et on va demander aux Juifs d'y aller. Et les Juifs, vers les années 450 à 400, vont s'installer là-dedans, dans ces îles. Et il y en a une qui s'appelle l'île d'Éléphantine. Quand des gens prennent le bateau au Caire et visitent le Nil, ils vont jusque ces îles, et beaucoup ne savent pas, mais ils vont sur l'île d'Éléphantine, regarder, prendre des photos, et là, il y a un temple qui ressemble à celui de Salomon. Parce que la garnison juive a construit un monument impérissable, un monument en l'honneur du temple de Salomon. Et il est là, aujourd'hui. Mais pour les Juifs, ils le savent. Et pour vous, si vous écoutez, vous le savez aussi, si vous allez en Égypte. Verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. Nous y voilà. Il existe. Ça, c'est prophétisé. En quelle année? En 780 avant Jésus. Il est construit en 435. Donc beaucoup plus tard. Et il existe encore maintenant. Donc, ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte, pour tous les visiteurs, etc. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Ah oui, dans le péché, ils sont dans la coalition qui va attaquer Ézéchiel 38, ils seront frappés. Mais n'empêche, Dieu a un plan d'élection sur l'Égypte. Pensez bien que Joseph y a été. Pensez bien que Jésus y a été. Que beaucoup de prophètes y ont été. Donc l'Égypte a un plan, a une position spéciale aux yeux de Dieu. Il les guérira, ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Égyptiens en iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Donc une communion matérielle, financière, pas du tout, spirituelle, dont le centre est Jérusalem. C'est une voie de communication spirituelle. Chers amis, voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est beaucoup. Il y a moyen de dire beaucoup plus, mais j'espère que vous croirez un peu plus dans l'autorité de la parole de Dieu. Que vous croirez infiniment dans la puissance du Saint-Esprit qui a animé les prophètes, les écrivains de la Bible. Que vous croirez que les prophéties ont un contenu historique réel. Et que vous croirez qu'il y a des signes à venir très prochains. Préparez-vous. Et s'il vous plaît, n'adoptez pas les théologies libérales protestantes et même de beaucoup d'évangéliques maintenant, où il n'y a pas d'Ézéchiel 38. Ce n'est que de la fumée. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas de royaume de Christ. Des multitudes d'églises, maintenant évangéliques, ont mis ça de côté. Chers amis, n'oubliez pas que celui qui retranche quelque chose de la parole de Dieu n'héritera pas de l'arbre de vie. Lisez les derniers versets de la Bible et n'ajoutez rien, s'il vous plaît. Soyez fidèles à ce que l'Esprit Saint a dit par les prophètes et par Jésus-Christ et par les apôtres. Voilà. C'est mon plus grand bonheur si vous acceptez tout ça. Parce que c'est mon bonheur, en tout cas. Tant que je crois tout ça, je ne me vois pas vieillir, même si j'ai mal aux genoux. Eh bien, vous-même, vous pouvez avoir une force de vie en vous. Parce que la force du Saint-Esprit, en lisant la Bible, est sur vous et dans votre vie. Acceptez l'autorité de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour Mathilde.